Phil PM. Politique.
Tout ce que j'ai entrepris, ça n'a jamais été facile. Il n'y a rien qui m'a été donné dans la vie. Oui, c'est très hostile.
Non, ma parole vaut beaucoup. Je suis un homme de parole.
François est une personne qui était très, très appréciée. Ironiquement, c'est une personne que je connaissais. François avait un petit garçon, bon petit joueur de hockey. J'ai travaillé avec lui. J'ai des grosses pointures à chausser. C'est une personne qui était aimée. J'espère juste être capable d'apporter à Marquette ce qu'il a apporté au cours des 24 dernières années.
Voici Antoine Robitaille et Carl Bélanger.
Alors, vous avez compris, hein, c'était Enrico Ceccone, le nouveau candidat libéral dans le comté de Marquette. Puis vous avez entendu également Philippe Couillard répéter que sa parole est importante pour discuter de cette affaire du comté de Marquette, cette affaire Ouimette et de tout ce qui s'ensuit. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et Carl Bélanger, consultant communication, ex-stratège politique sur la scène fédérale. Bonjour Carl.
Bonjour.
Vas-y Antoine, écoute.
Quel fiasco, Bernard.
Oui, c'est clair.
Ça se peut pas là. Écoute, comme annonce ratée d'une candidature, on peut pas... On peut pas, dans les oppositions, dans les partis d'opposition, rêver mieux. Moi, il y a un stratège, comme on dit souvent, qui me parlait tout à l'heure, qui disait « J'aurais voulu scripter ça, là, puis j'aurais pas réussi. » Ça dépasse les plus grands espoirs de la CAQ et du Parti québécois.
Il y en a un qui me dit hier soir, il dit « On n'a pas besoin de faire campagne. »
Il
se plante tout seul.
Hein? Ils se plantent seuls, puis je vais te dire, dans les rangs libéraux, là, ils sont découragés.
Ouais.
Monsieur Couillard, qui est obligé de dire ce qui suit, on peut l'écouter.
J'ai tenu tous mes engagements auprès de la population, je tiens tous mes engagements auprès de tout le monde. Je vais répéter tout simplement ce que j'ai dit hier. D'abord, j'ai parlé des accomplissements de Monsieur Ouimette. Jusqu'à très récemment, il était le candidat, et c'est ce que je lui avais dit. On a devant nous des candidatures de très grande valeur. On en avait une ici avec Enrico Ceccone. Il y en a d'autres également. Et notre parti va présenter une image qui sera à la fois celle de l'expérience et du renouveau. Maintenant, je sais que c'est douloureux pour François. Ça l'est pour moi aussi. Ce n'est pas des moments ou des décisions qui sont agréables. Il faut cependant les prendre dans l'intérêt supérieur du parti.
Oui. Ce n'est pas supérieur du parti qui nous intéresse. C'est l'intérêt supérieur des Québécois, là, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Carl? T'as fait « wow ».
Ben, c'est un peu hallucinant, là, d'écouter le premier ministre essayer de récupérer la situation en disant « je tiens toujours ma parole, sauf que…
» Non, sur le plan… Tu sais, la confiance, c'est toujours un thème central de la rhétorique politique. Ouais. Faites-moi confiance. C'est tellement fondamental, là, dans la rhétorique politique, que tout le monde parle de confiance. Et là, on a quelqu'un… qui a serré la main, on a le premier ministre qui a serré la main à son député, pas n'importe qui, là. Puis, tu sais, il aurait pu vous faire un coup fourré un adversaire, mais non, son propre député, un loyal soldat, puis qui le regarde dans les yeux et dit « je te jouerai pas des tours ». Puis en plus, moi, je pensais hier qu'on aurait des dénégations de la part de M. Couillard quant au fait.
Aucun démenti. Hein?
Aucun démenti. Il dit les circonstances ont changé.
C'est ça.
Mais je veux dire, à chaque fois que M. Couillard va faire une promesse, il me semble que les partis d'opposition vont dire, ou les autres partis adversaires, là, ils vont dire, les circonstances vont changer puis vous allez abandonner votre promesse. À la décharge de M. Couillard, il faut dire que ceux qui ont étudié le bilan des promesses de M. Couillard trouve qu'il a réussi respecter 80%.
Oui,
donc,
oui, tout à fait.
C'est peut-être à ça qu'il peut s'accrocher, là, M. Couillard, mais quand même, la grogne est tellement solide chez les militants.
Notamment dans Marquette.
Hein? Ils veulent démissionner en bloc dès que M. Ouimet va avoir fini son mandat. Et c'est pas rien parce que ils se disent, par exemple, Patrick Carole, président de l'organisation, de l'association dans Marquette, l'association libérale, c'est un ancien vice-président du Parti libéral.
Oui.
C'est pas n'importe qui. Et il dit, on est tous libéraux dans l'âme, mais il a été traité, notre député Ouimet, comme d'une manière non humaine. Et moi, et là je cite au texte, « Moi, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas de parole ». Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas libéral.
C'est ce que j'ai parlé avec un autre membre de l'exécutif, Antoine. Il m'a dit, moi, je reste libéral, mais je ne travaillerai pas pour faire élire le député libéral dans Marquette pour cette élection-ci. Alors, si tous les membres de l'exécutif...
Je ne sais pas si Ticoné a été questionné là-dessus, d'ailleurs. Il n'y a plus d'exécutif, là. Les gens ne travailleront plus pour lui, là. C'est pas évident pour l'organisation dans un comté.
Puis je veux te dire, l'exécutif, c'est le cœur d'une organisation dans un comté.
Ben c'est ça.
Fait que s'ils se mettent tous les deux pieds sur la bavette du poil, puis ils disent, garde, tu as humilié notre député sortant, ben garde bien mon gars, organise-toi tout seul dans Marquette, c'est pas nous autres qui allons travailler pour Ticoné.
Comment ils ont pu échapper ça? Je comprends pas. On va écouter Philippe Couillard qui a dit qu'il fallait ouvrir les portes de l'avenir.
Ouvrir la porte à l'avenir, moi, je pense que c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je crois que beaucoup de gens du comté de Marquette, sans minimiser les mérites de M. Ouimet, encore une fois, vont se reconnaître dans ce qu'apporte Enrico. L'image du dynamisme, la jeunesse, une nouvelle voie en politique, un engagement évident pour la société, pour la jeunesse en particulier. Je crois que là, un message très fort qui va être bien accueilli par les citoyens du comté de Marquette.
Encore là, les militants du coin, ils veulent déposer une contestation devant les tribunaux. En tout cas, ils y songent. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus. On estime que le parti n'a pas respecté sa constitution.
Hein?
Sous le couvert de l'anonymat, ça a été dit. Moi, ça m'a été dit hier aussi. Il y a des gens qui sont en train de regarder la possibilité d'une mise en demeure, d'une injonction. Alors, c'est pas fini, cette affaire-là. Là. Et quand je te dis que les militants sont en maudit, il y a toutes sortes de militants, moi, à qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé. Hier, je te parlais de Mario Lavoie, un ancien conseiller de Jean Charest, qui l'a dit à visage ouvert sur Facebook, qui était outré de la manière dont on avait traité. Donc, la vieille base du Parti libéral, qui est très importante, c'est des gens loyaux, ça. Puis de voir Philippe Couillard comme ça, couillonner, sans jeu de mots, là, excusez-moi, mais un de ses députés, là, ça les a vraiment fâchés. Et on peut penser à un ancien député.
Ben oui.
Roch Cholette,
ben oui.
Conjoint de Stéphanie Vallée, qui fait de la radio maintenant en Outaouais et qui, ce matin, là, il a vraiment fait une longue tirade de critiques au FM 1047. On peut l'écouter.
Philippe Couillard est plus vieux que lui. Pierre Moreau est plus vieux que lui. Maryse Gaudreau est plus vieille que lui. On dirait quoi si c'était une femme de 58 ans qu'on avait tassée en disant qu'elle est trop vieille? Qu'est-ce que le Québec aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait tassé un homme musulman qui avait gagné depuis 1994? Parce que c'est un homme blanc francophone, bof, au Parti libéral du Québec, c'est correct. Pour qui on fait ça? Pour Enrico Ciccone.
Il est pas drôle. C'est un ancien député que vous venez d'entendre, mesdames et messieurs. Il a été député pour le Parti libéral à l'Assemblée nationale
Roch Cholette,
de 1998 à 2008.
Son argumentaire, il est intéressant, il est polémique. Il y a quand même des femmes âgées là, qui ont été tassées. Là. Je pense à Rita DeSantis dans Bourassa Sauvé.
Oui, d'ailleurs, on sait qui va la remplacer. Comme
c'est quelqu'un que tu connais bien.
Oui, Paul Robitaille. J'ai été. On a pratiqué le journalisme.
À Radio-Canada?
Ben oui, elle a commencé à Windsor, dans le sud de l'Ontario.
Et moi, c'est ma petite cousine.
Et on a commencé ensemble dans le sud de l'Ontario, à la petite station de Radio-Canada. Et c'était quoi, ta petite cousine, dis-tu?
Oui, c'est la cousine du cousin de mon père.
Bon.
Donc,
alors, elle a été évidemment...
Je la connais bien, Paul, mais oui.
Correspondante pour Radio-Canada en Amérique latine. Elle a été
En URSS.
En URSS, oui,
elle a couvert la chute de l'URSS. À ce moment-là, elle était à son compte, mais rapidement, elle est devenue correspondante de Radio-Canada, notamment en Amérique latine. Elle a écrit pour Le Devoir aussi.
Et depuis 2012, elle était commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.
Ben oui, la crise des migrants, elle connaît ça, là.
Oui. Oui, oui, oui.
Ah, donc, c'est une candidature intéressante.
Oui, oui, absolument.
Et Rita DeSantis, lui, a d'une certaine façon laissé son siège. Parce que Rita
Rita s'est fait pousser pas mal vers la sortie.
Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis que Cholette, quand il dit « ça avait été une femme âgée de... » Tu sais, je sais pas, là, ça arrive. Mais en tout cas, ça a l'air qu'avec Rita DeSantis, ça a bien fonctionné, qu'elle n'a pas fait d'esclandre. que ça a
mais
été
elle l'a pas fait, elle l'a pas
fait
publiquement. Mais elle l'a pas fait non plus de gaieté de cœur.
Non.
Oh non. Elle
non, parce sentie. Que pendant des mois, moi, j'y parlais dans le couloir, puis elle dit oui, je me représente, je me représente.
Elle s'est sentie jetée aux orties, comme tu le disais hier.
Comme une vieille chaussette.
Oui, voilà. Par contre, Pierre Paradis, il y en a qui partent, puis il y en a qui reviennent. Pierre Paradis, lui, revient au bercail.
Il est réintégré au sein du Parti libéral du Québec. C'est la fin de son mandat, là, dans quelques semaines. Mm-hmm. Puis, on sait qu'il avait été expulsé du caucus après des accusations d'inconduite sexuelle.
Oui.
Bon, il a été blanchi de ces accusations-là. Il est en congé de maladie depuis janvier 2017.
Oui.
Il y a eu une très dure chute à cheval.
Oui.
Donc, c'est très difficile pour lui. Puis le Parti libéral a décidé, le caucus libéral a décidé de le réintégrer pour la fin de sa carrière parce que ça a été quelqu'un d'important dans l'histoire du parti, un ancien candidat à la chefferie notamment. On peut écouter Philippe Couillard à ce sujet.
Comment justifier l'éviction un peu du candidat Ouimet qui avait une feuille de route parfaite tout en songeant à réintégrer Pierre Paradis, qui a un peu acquis une réputation de mon oncle, si on peut dire.
Bien là, je pense que vous devriez faire attention à vos paroles. Là. Deuxièmement, M. Paradis est dans notre formation politique depuis plus de 37 ans. M. Paradis représente ses citoyens. En passant, s'il était candidat aujourd'hui dans Beaumont-Missisquoi, je vous garantis qu'il serait élu. Cet épisode-là a été douloureux également. Oui, pour M. Paradis, mais je pense également à l'autre personne qui était impliquée dans cette histoire-là. Mais les procédures sont allées au bout. Tout est terminé maintenant. On est dans un état de droit. Et Pierre Paradis est bienvenu dans notre caucus. Et je souhaite, moi, qu'il participe au moins activement à la campagne électorale dans Beaumont-Missisquoi.
Oui, qu'ils vont essayer de garder, même si la CAQ a de grands espoirs dans Beaumont-Missisquoi. Merci, oui. Antoine. On va aller rejoindre notre ami Carl, qui va nous parler de ce nouveau torchon qui brûle entre Maxime Bernier d'un côté et son chef Andrew Scheer.
Et ça brûle pas à peu près. Hier, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a émis un communiqué pour désavouer Maxime Bernier. Et on va se rappeler le dimanche, ça a commencé dimanche, notre Twitter en série nationale Mad Max, qui est sorti sur le multiculturalisme extrême, dénonçait le clientélisme politique, dénonçait les politiques, le culte du multiculturalisme.
De Justin Trudeau en particulier, hein, disait-il.
En particulier Justin Trudeau.
Oui.
Il en a rajouté mardi soir, il a dénoncé à Winnipeg, il y a un parc qui a été nommé au nom d'un fondateur du Pakistan. Il dit, on fait ça à Winnipeg, puis à Victoria, on enlève la statue de Johnny McDonald, qui est le fondateur du Canada. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Évidemment, les partis d'opposition en profitent. Là. Jack Mitzing a attaqué le chef conservateur parce que jusqu'à hier, Scheer n'avait rien dit sur ses tweets d'Andrew Scheer. On a évidemment le Parti libéral qui dénonce ça également. Des députés qui demandent à Scheer d'expulser Maxime Bernier. On fait des levées de fonds là-dessus. Justin
Qu'est-ce
Trudeau,
que tu veux dire? Le Parti libéral se sert des déclarations de Bernier pour envoyer des messages à ses sympathisants, à ses membres, pour leur dire « Envoyez-nous de l'argent, contre quoi on se bat, là. »
C'est ça, c'est l'ennemi, c'est la vision des conservateurs, la politique de la division, c'est contre ça qu'on se bat, nous, au Parti libéral.
Etc.
Écoutons d'ailleurs le premier ministre Justin Trudeau, ce qu'il avait à dire là-dessus.
Malheureusement, les conservateurs savent que, oui, il y a des avantages électoraux à diviser les gens, mais on a aussi vu que quand on divise les gens, ça devient plus difficile non seulement de bien gouverner le pays, mais de bien trouver des solutions pour qu'on ait une société plus forte, plus réussie, plus résiliente.
Oui. C'est sûr que Justin Trudeau ne va pas manquer une occasion comme celle-là, parce que ça embarrasse sérieusement les conservateurs.
C'est tout un cadeau pour lui.
Ouais. Écoute.
Et les conservateurs le savent très bien. Toute la semaine, les collègues, les députés conservateurs ont rabroué Maxime Bernier en public, notamment sur Twitter, puisque c'est là que le débat se passe particulièrement. Et des poids lourds, là, comme Tony Clement et Michel Rampeau. Il y a aussi le député conservateur de la région de Québec, du comté de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qui remet en question l'approche de Maxime Bernier. On va l'écouter.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que faire de la politique par tweet, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon. Souvenons-nous, là, la semaine dernière, avec l'histoire avec l'Arabie saoudite, cette histoire-là est née du problème que la ministre responsable de la diplomatie canadienne est allée écrire ses états d'âme sur Twitter. La diplomatie, là, ça se fait pas par Twitter, là, tu sais.
Ouais, mais là, revenons à Maxime Bernier, hein?
C'est ça. Et Maxime Bernier, lui, évidemment, il pense que la politique, ça se fait par Twitter. Il en a rajouté une couche hier. Alors, il a dénoncé l'intention du gouvernement libéral de créer un congé férié pour souligner le drame des pensionnats autochtones. Et donc, il appelle ça le culte de la victimisation. Est-ce qu'il y a peut-être un point? Je ne sais pas, mais c'était la goutte de trop pour Andrew Scheer qui a émis un communiqué par la suite. Et là, je vais vous lire ce qu'il a dit. Maxime Bernier n'a pas de rôle officiel au sein du caucus et ne parle pas au nom du Parti conservateur du Canada sur quelque question que ce soit. Sur quelque question que ce soit.
Claque sa gueule, ça. Hein?
Ça, c'est sous l'autobus.
Et bobo,
c'est hein? Sévère. C'est sévère.
Mais en même temps, moi, je trouve dans ce débat-là que ça veut dire que toute critique du multiculturalisme, désormais, en politique, va être tabou.
Non, je suis pas d'accord avec toi, moi.
Il va falloir.
Non, Antoine, parce que je suis pas d'accord avec toi.
Je regarde.
Le problème.
Non, mais attends deux minutes. Ouais. Attends, je regarde le texte, là, ce qu'il a dit, là, les critiques. Là. Ça me fait penser, moi, à des critiques du multiculturalisme qui sont venues du Canada anglais, puis de personnes de l'immigration dans les années 90.
De Neil Bissandat, notamment. Regarde, on va arrêter ça, là.
Ah oui,
on va,
c'est
on
vrai,
va aller
c'est
à
vrai,
la pause, puis on va continuer. Oui. Non, non, mais elle est importante, la discussion sur le multiculturalisme. Je veux pas la passer comme ça, vite, vite. Alors, on s'arrête, puis on continue ça au retour. Okay. Donc, de retour avec Carl et Antoine. Antoine, tu es en train de dire... Est-ce qu'avec une sortie comme celle-là et tous les pots qu'il mange par la tête, est-ce que Maxime Bernier, dans le fond, a pas tué un peu l'espace de débat autour du concept du multiculturalisme? Moi, je vais te dire, le multiculturalisme, là, il faut en discuter parce que franchement, il y a des effets pervers à ça, notamment l'espèce d'extrême ghettoisation que ça peut apporter. Mais le problème que j'ai avec les déclarations de Bernier, c'est qu'il a mélangé multiculturalisme et diversité. Il y a comme, pour lui, là, il a attaqué à la fois la diversité et le multiculturalisme. Multiculturalisme, c'est une doctrine, c'est une philosophie, appelle ça comme tu voudras, une idéologie.
C'est dans la Constitution.
Ben, c'est dans la Constitution. Mais je m'excuse, la diversité, c'est un fait sociologique. D'avoir des citoyens qui viennent de partout dans le monde, ça peut pas être un problème, ça. Et là, lui, il attaque ça. Et ça, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec
aujourd'hui.
Ben là,
aujourd'hui,
pense...
là, Bernier essaie de se défendre.
Il y a des sociologues
là.
Qui ont dit que... j'avais fait un article dans Le Devoir, je me souviens, ça s'intitulait « La diversité Nutella à la société ». Puis c'était Robert Putnam, un grand sociologue américain de Harvard, gourou du capital social, tu sais, c'est lui qui avait forgé ce terme-là. Il avait étudié des villes, des endroits où il y a une diversité très grande. Puis il avait dit « ça pose quand même un certain nombre de problèmes ». Mais je pense que... j'avais interviewé Gérard Bouchard, je me souviens, parce que c'était il y a longtemps, là, c'était en 2007, quand et Gérard Bouchard avait répondu le lendemain, oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'arguments pro-diversité, puis que c'est vrai qu'il y a certains sociologues qui, à leur corps défendant, ont découvert que ça provoquait le problème de la tortue, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de diversité, chacun s'enferme dans sa niche ethnique et tout ça, et je sais que politiquement, ça peut être explosif, ces discours-là, puis je pense qu'il faut les critiquer. Il faut critiquer aussi peut-être la méthode de M. Putnam. Mais est-ce que on est en train, au Québec et au Canada, de faire de toute critique du multiculturalisme une espèce d'interdiction?
Non, faut pas.
Mais c'est ça qu'on est en train
de
faire.
Faut pas. Ben là, pourquoi tu dis ça?
Ben, pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui critique, ben, il se fait
crucifier en se faisant dire... Il y a un ton aussi, il y a une approche, puis dans le cas de Maxime Bernier, là, il va pas de main morte, il va à coup de grenade.
Ah oui,
il faut comprendre qu'au sein du Parti conservateur, on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts sous le gouvernement Harper, Jason Kenney particulièrement, pour essayer d'amadouer les communautés culturelles, pour essayer d'attirer les différents groupes.
Pour qu'ils s'approchent du parti,
oui. Oui, voilà. Et ils ont réussi à le faire jusqu'à un certain point.
Ben, le mandat majoritaire de Harper, là, il l'a gagné parce que la grande région de Toronto a fini par voter conservateur. Puis c'est probablement l'une des métropoles les plus multiethniques dans le monde. Certainement
absolument.
Dans les Amériques, mais certainement dans les Amériques, mais peut-être même dans le monde.
Et la même chose en banlieue de Vancouver. Les conservateurs ont fait des percées, particulièrement dans la région de Surrey. Puis ça, c'est Jason Kenney, l'approche des conservateurs.
Ouais.
Et une des raisons pourquoi ils ont perdu la dernière fois, c'est parce qu'ils ont décidé de tourner le dos un peu à ça en y allant des lignes de dénonciation sur les pratiques barbares, toute l'approche par rapport au vote voilé, le niqab, etc., etc. Ça a rebuffé beaucoup. Non, mais écoute, ça a joué beaucoup, particulièrement dans la région
NICAP,
de Toronto.
Bernard,
ils se sont fait laver dans la région de Toronto.
Oui, mais je ne suis pas sûr que c'était à cause de l'histoire du NICAP. Pas sûr de ça, Carl.
On pourra en reparler.
Ouais,
mais ce qui va être intéressant à suivre dans le cas du Parti conservateur, c'est que Maxime Bernier est toujours au sein du caucus.
Oui.
Et dans une semaine, il y a un congrès conservateur et on se rappelle que Bernier a fini à 50% des voix lors de la course à la direction.
Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'il l'expulse pas.
Et moi, je pense qu'il
ne l'expulse pas parce qu'il représente un courant trop fort au sein du Parti conservateur.
Ils ne peuvent pas se permettre
de le mettre à la porte parce que franchement, là, tu parlais de grenade. Maxime, c'est une grenade dégoupillée, à temps plein. Tu te souviens de cette expression, mon cher Antoine?
Oui, oui.
Bon, c'est une grenade dégoupillée. Parce qu'elle peut exploser à tout moment. Puis je vais te dire une affaire, plus on se rapproche des élections, d'avoir un électron libre comme ça qui décide sur Twitter de donner des coups de gueule sur la gestion de l'œuf une journée, sur la diversité l'autre journée, contre, t'es chef de ce parti-là, puis tu te dis, je m'en vais en élection avec ce député-là, il va me mettre dans le trouble pendant la campagne électorale. Et donc, dans un parti normalement constitué, ils l'auraient déjà mis à la porte, sauf qu'ils ne peuvent pas se permettre, à mon avis, c'est mon analyse, Carl, ils ne peuvent pas se permettre de le mettre à la porte parce qu'il représente un courant trop fort et qu'il a trop d'appui chez les militants et au sein du parti, comme on l'a vu lors de la course.
La base très militante, hein, ceux qui donnent de l'argent au parti, ils en sont beaucoup avec Maxime Bernier. On a un congrès dans une semaine, il y a plusieurs résolutions que l'élite du Parti conservateur, les stratèges voudraient voir passer sous le tapis, mais si tu fais à une semaine du congrès de Maxime Bernier un martyr, là tu te mets dans le trou pour le congrès puis tu vas pas passer ton programme. Alors c'est un peu le calcul d'Andrew Scheer. Mm-hmm. Il est pris entre deux feux parce que de l'autre côté, il voit bien que les opposants des conservateurs profite de ce que Maxime Bernier dit. Il est encore là ce matin. Là, il en parle encore sur Twitter. Il est revenu. Il n'a pas encore compris le message.
Les
adversaires en profitent.
Carl, tu voulais nous parler de la tournée québécoise de Jack Meetsing, le chef du NPD. Il y a une grosse nouvelle concernant Jack Meetsing qui va tomber un peu plus tard aujourd'hui, ou peut-être qui est déjà tombé là, par rapport au Parti vert dans le comté où il veut se présenter à la Colombie-Britannique. Faisons-nous l'engagement ou la promesse qu'on en parlera demain dans notre analyse de cette tournée de Jack Meetsing, chef du NPD au Québec. Ça te va, ça, Carl?
Ben moi, je suis pas là demain. Alors, avec Hélène Buzetti,
on va en parler avec Hélène Buzetti. On se fait cette promesse-là quand même. Carl,
moi, je vais être là pour ma dernière demain.
Ben oui. Antoine et Carl, merci.
Au revoir.
On reste à l'écoute. Après la pause, on revient.